Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne dans le cadre des émissions Art et Foi. Nous sommes aujourd'hui avec Gilles Fresson, qui est professeur, professeur d'histoire et attaché de coordination au rectorat de la cathédrale de Chartres, et il nous fait l'amitié de venir dans notre studio pour nous parler aujourd'hui des jubés de la cathédrale de Chartres. Les transformations d'une cathédrale gothique au fil des siècles, car les cathédrales ne sont pas statiques, on les adapte quand il y a une nouvelle liturgie, et nous sommes heureux de vous avoir avec nous, car en tant qu'historien, vous saurez nous parler de toutes ces transformations, et nous sommes dans l'actualité, puisque la cathédrale de Chartres est actuellement en restauration, et la partie inférieure du chœur va être nettoyée, restaurée également. Peut-être vous voulez nous parler tout de suite de ces travaux.
Mais ça va faire un lien direct avec le jubé. Ces travaux, effectivement, je pense que chacun aura compris que les parties hautes du chœur ont déjà été restaurées. Ça a d'ailleurs fait sensation sur Chartres et autour de Chartres. Évidemment, c'est un des plus beaux chantiers actuels du patrimoine européen. Donc, on va continuer avec les parties basses du chœur. Parties basses du chœur qui vont permettre de voir l'aménagement, de retrouver toutes les couleurs, les nuances de l'aménagement liturgique du XVIIIe siècle. Alors même si aujourd'hui on le regarde avec parfois une sorte de mépris, de condescendance, il reste que c'est pour l'époque une très belle réalisation. Et pendant les travaux, pendant que le nettoyage de ces parties basses du chœur auront lieu, les gens vont avoir une grande surprise parce que la bâche qui va occulter les travaux va reproduire non pas la situation du XVIIIe siècle, ou la situation actuelle, mais comment était la cathédrale avant, au moment de sa construction, c'est-à-dire qu'on va refaire voir le jubé du XIIIe siècle, c'est-à-dire le jubé qui avait été installé au moment où on a construit la cathédrale.
Alors, qu'est-ce qu'un jubé qui fait partie de toutes les cathédrales au Moyen-Âge ?
Oui, tout à fait, c'est quelque chose de général. Je précise d'ailleurs qu'il en reste très peu aujourd'hui.
Alors donc, le jubé, peut-être pour dire, la dénomination jubé provient des paroles prononcées par le diacre qui allait lire l'évangile, « Jubé Domine », que Dieu veuille bien bénir mes paroles. Donc on a donné à cette partie sur laquelle montait le lecteur le nom de jubé.
Exactement.
D'où on faisait donc, c'était une sorte d'embon, on montait comme une chaire plus tard, pour proclamer l'évangile, puisqu'on n'avait pas de microphone à l'époque.
Exactement.
Pour se faire entendre. Donc jubé, c'est donc une construction qui sépare le chœur, la partie la plus sacrée, la plus sainte,
où l'on célèbre, de la partie où s'assoient les fidèles.
Et ils ne s'assoient pas au Moyen-Âge.
Ils s'assoient aujourd'hui où ils étaient debout, en tout cas où se trouve l'assistance.
Oui.
Alors, je pense que les gens comprendront mieux s'ils l'ont fait la comparaison avec ce qui est dans le monde orthodoxe une iconostase. C'est-à-dire qu'on sépare le lieu le plus sacré, celui où a lieu la liturgie de l'Eucharistie, de tout le reste de l'édifice. Pendant très longtemps, il est nécessaire de faire la distinction, voire de voiler un tout petit peu la messe elle-même pour garder l'impression de mystère. Le christianisme, c'est quand même la proclamation de grands mystères. Pour qu'aussi les choses ne paraissent pas trop immédiates, donc trop triviales, trop banales, il faut marquer aussi certaines distances. Et donc, pendant très longtemps, effectivement, il y avait, on peut dire, un paravent, un mur qui occultait la partie de la célébration, de la partie d'où les gens assistaient.
On l'a encore dans certaines églises, donc, comme dans la cathédrale d'Albi.
Exactement.
Où le jubé n'a pas encore été détruit. Je pense que maintenant, on va le laisser. Donc, on avait des courtines, des rideaux, même autour de la partie la plus sainte de ce chœur. Et le jubé, alors le jubé du Moyen-Âge, on l'attribue à Saint-Yves, mais il semblerait que Saint-Yves aurait plutôt fait construire dans la cathédrale une sorte d'emban, une chaire sur laquelle on montait.
Il avait probablement déjà aussi réalisé un jubé au sens où nous l'entendons, mais ce jubé, logiquement, a dû être détruit dans l'incendie de 1194. On ne sait pas exactement jusqu'à quel point sont allées les destructions en 1194, mais c'est vrai qu'à la croisée du transept, s'il y avait jubé, il a dû disparaître forcément dans cet incendie. Donc, le jubé gothique a été réalisé à la fin des travaux de la cathédrale, vers 1230-35, 1240, alors que les voûtes sont déjà achevées, on peut dire que le gros œuvre est terminé. Et on va y venir, tout simplement, c'est un des chefs-d'œuvre de la cathédrale, où c'était, on va vous dire jusqu'à quel point il en reste des éléments, en tout cas, quelque chose d'absolument admirable, réalisé par les meilleurs sculpteurs du temps, et qui témoigne vraiment du génie de la sculpture gothique dans ces années-là.
À quoi ressemblait donc le jubé du Moyen-Âge, que l'on attribue aussi à Saint-Louis? Il aurait donné sans doute quelques...
C'est les mêmes années où effectivement est réalisée la Grande Rose Nord, moment où la cathédrale de Chartres entre de façon beaucoup plus claire dans l'emprise politique de la royauté française. Donc il est très probable que le jubé ait bénéficié aussi de ces donations de Saint-Louis. Alors à quoi ressemble-t-il? Une galerie couverte, voûtée d'ogives, reposant sur de très fines colonnettes, et au-dessus de cette galerie voûtée, qui devait faire à peu près 5 mètres de haut, une plateforme, celle, comme vous l'avez dit, d'où le diacre annonce hein, aux
fidèles. Donc des escaliers à l'intérieur du chœur qui permettaient de monter.
Voilà, tout à fait. Les escaliers sont évidemment cachés de la nef, sont au revers du jubé, côté chœur. Deux escaliers, hein, un à gauche et un à droite, qui permettent d'accéder à la plateforme. Ce jubé est remarquable de plusieurs points de vue. D'abord sa légèreté, hein, les colonnes qui le supportent sont exceptionnellement fines, de diamètre à peu près la même chose qu'une main, hein, à peine plus de 20 cm. Un deuxième point qui est également très intéressant, c'est que entre chacune des arcades, qui en fait font ressembler le jubé vu de la nef à une sorte de cloître. Entre chacune des arcades en partie haute, des bas-reliefs. Des bas-reliefs d'une précision, d'un sens esthétique absolument sublime, que les gens voyaient donc légèrement d'en bas, hein, à peu près 3 mètres en dessous, et qui donnaient vraiment les principales scènes de la vie du Christ, de son enfance.
Et comment est-ce qu'on peut, puisqu'il a été détruit par les chanoines eux-mêmes au XVIIIe siècle, savoir tous ces détails parce qu'il y a des gravures?
En fait, il faut combiner les gravures, comme vous le dites. On a trois gravures tout particulièrement intéressantes de la cathédrale au XVIIe et au XVIIIe siècle, avant la destruction. On peut combiner donc ces gravures et puis les découvertes archéologiques, on va y venir, qui ont été faites au cours du XIXe siècle. Donc, tout simplement, voir comment les éléments conservés, aujourd'hui connus, s'associent, peuvent fonctionner, si je me permets de m'exprimer ainsi, par rapport à ce qu'on voit sur les gravures. C'était Musica Cathedralis, l'ensemble Lamorache et l'ensemble Fulbert, musique et chant du Moyen-Âge.
Je crois que c'est un CD que l'on peut encore acheter, on le trouve encore.
Oui, que l'on peut tout à fait trouver sur Chartres. L'ensemble Fulbert est tout à fait connu sur Chartres. Hein. Il a fait un certain nombre de concerts qui ont tout à fait été remarqués, hein, dans la crypte de la cathédrale notamment.
Qui est une cathédrale, comme nous avons eu l'occasion de le rappeler dans une précédente émission, une cathédrale marquée par la musique. Et aujourd'hui encore, nous sommes tellement gâtés à Chartres par tous ces concerts qui sont organisés dans la cathédrale. C'est encore une question de logistique lourde. Cela pourrait faire l'objet d'une émission de parler sur les organisations des concerts dans une cathédrale gothique. Mais nous étions dans le jubé du gothique et vous vouliez, cher Gilles Fresson, attaché de coordination au rectorat de la cathédrale de Chartres, nous parler du jubé du Moyen-Âge et des parties que l'on a retrouvées quand et comment et qui font partie maintenant du trésor de la cathédrale de Chartres.
Alors, le scénario est le suivant. 1763, les chanoines décident de détruire le jubé. Il faut dire qu'il présentait certainement d'importants signes de fragilité. On a dit à quel point sa structure était légère. Par ailleurs, le goût avait changé. Ça ne plaisait plus du tout au clergé local.
Concile de Trente est passé par là.
Voilà, et surtout le Concile de Trente. C'est-à-dire que désormais, il faut que le culte soit visible, qu'il puisse créer immédiatement une émotion auprès du fidèle qui doit comprendre de façon intuitive les mystères de la messe, et donc ce n'est plus du tout le lieu de cacher la célébration, bien au contraire, il faut qu'elle soit ostensiblement visible. Le jubé, à tout point de vue, esthétique, liturgique, technique, n'est plus le bienvenu. Il est donc détruit. Sans doute, dans un premier temps, les chartrains se servent-ils dans les débris, mais le droit canon a priori dispose que les éléments qui ont été bénis autrefois, qui ont été consacrés dans un édifice de culte, doivent rester sur place, qu'on ne peut pas les faire revenir à l'usage profane, même si ce sont des débris. Et donc, les maîtres d'œuvre de la cathédrale, à la fin du XVIIIe siècle, utilisent les morceaux dans le dallage. Ils retournent les sculptures face contre terre, histoire d'utiliser le côté plat, pour réparer le dallage. Alors ça peut paraître assez scandaleux dans l'absolu, mais n'empêche que ça nous a préservé certains des morceaux les plus intéressants. Quand en 1836 un grand incendie a lieu dans les combles, certains morceaux de plomb en particulier tombent sur le dallage, il est nécessaire de le réparer, et en le réparant, en retournant les dalles, on fait cette découverte. On fait cette découverte d'ailleurs pas tout à fait, certains vieux chartrains, 1736-1763, faites le calcul, certains vieux chartrains se souvenaient vaguement qu'on avait dû s'en servir quelque part. Stupéfaction d'un avocat chartrain, doublé de Bois-Thibault, qui dit, écoutez, il faut absolument poursuivre les recherches pour trouver tous les éléments intéressants de ce jubé. Le vent avait tourné, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, désormais le gothique était de nouveau à la mode. Les choses vont vite. Et en 1848-49, l'architecte Lassus se lance donc dans une recherche exhaustive sur le dallage de tous les éléments qui doivent encore être dans la cathédrale et provenant de l'ancien jubé. Recherche fructueuse, il trouve des éléments absolument remarquables qui aujourd'hui, effectivement, sont intégrés aux collections de la cathédrale et qui seront, j'espère, dans un avenir assez proche, présentés dans son trésor.
Donc ce sont des dalles sculptées. On trouve encore de la polychromie, de la peinture dessus.
Oui, tout à fait.
Des dorures.
Dorures, polychromie. L'état de conservation est absolument sidérant. Tout simplement parce que ces sculptures, d'abord, étaient très fines. À l'origine, on a choisi pour les réaliser les meilleurs sculpteurs. Ensuite, elles étaient en intérieur, et donc elles n'ont pas subi les intempéries. C'est assez rare, d'ailleurs, si on y songe, les sculptures gothiques qui sont en intérieur, et donc, de ce point de vue-là aussi, ce sont des exceptions. Et à défaut de les traiter correctement, cette utilisation dans le dallage les a finalement au moins protégées des agressions les plus marquantes. Et donc on a des pièces, on va y venir, des pièces qui sont exceptionnelles de beauté, de profondeur mystique, de sens symbolique, vraiment parmi les plus belles sculptures du Moyen-Âge, il faut avoir la clarté de le dire, ce sont des pièces
étonnantes. Sur le marché de l'art, ça vaudrait une grande fortune, j'imagine.
Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je le dis. Maintenant, on sait un tout petit peu ce qu'il en est, puisque certains morceaux, hein, en particulier, a réapparu récemment sur le marché de l'art. Je ne vais pas entrer, hein, c'est pas le sujet dans ce débat de savoir exactement ce qu'il en est. Mais ça nous permet d'avoir un aperçu de la valeur de l'ensemble qui est actuellement contenu à la cathédrale, supérieur à 200 millions d'euros. Voilà. C'est si sur le marché de l'art, c'est ce que valent actuellement ces morceaux qui malheureusement ne sont pas présentés au public et qu'ils seront forcément un jour, pour la simple raison que je viens de dire. Voilà, ces objets de valeur. Bon,
le but, c'est de créer un espace, peut-être dans la chapelle Saint-Pierre à l'est de la cathédrale, où l'on pourrait en toute sécurité présenter au public ces merveilles qui sont les restes de l'ancien jubé du XIIIe siècle et qui est d'une très grande finesse, d'une très grande élégance.
Au rez-de-chaussée précisément de la chapelle Saint-Pierre, c'est-à-dire dans l'ancienne salle capitulaire, l'idée étant de présenter au premier étage tous les éléments d'orfèvrerie, de paramantique, ce qu'on pourrait appeler vraiment le trésor au sens proprement dit, et donc au rez-de-chaussée de ce petit bâtiment, comme vous le dites, extérieur à la cathédrale, mais qui lui est immédiatement relié, tous les éléments du lapidaire. Et forcément, on va garder les éléments du jubé, hein, on va focaliser complètement sur les éléments du jubé en évacuant le reste du lapidaire, parce que ce jubé est très au-dessus du reste du lapidaire.
Ce serait peut-être pas aussi intéressant de mettre des têtes à moitié martelées, qui ont roulé au moment de la Révolution, ou peut-être même auparavant, au moment des guerres de religion. On pourrait peut-être rappeler que Henri IV a été couronné roi dans la cathédrale de Chartres.
Et que ce jubé a d'ailleurs eu...
lui a servi de scénario, si on veut, s'exprimer
c'est
ainsi.
C'est de ce jubé qu'il est apparu au badaud qui attendait dans la nef la fin des cérémonies du couronnement.
Donc ce jubé du XIIIe siècle, qui est une pure merveille, on ne peut pas comprendre comment les chanoines aient pu sacrifier cette merveille, mais en tous les cas ils l'ont fait, mais il a fallu fermer la cathédrale pendant 3 semaines. Je crois que la population n'était pas très heureuse quand elle a su que la chose était faite, mais on l'a remplacée. On l'a remplacé par un autre jubé, plus en conformité, comme vous avez eu l'occasion de le rappeler, avec les prescriptions du Concile de Trente, un plus grand rapprochement des laïcs des saints mystères.
Oui, ce nouveau jubé date d'ailleurs sensiblement de la même époque que le réaménagement de toutes les parties basses du chœur, c'est-à-dire les grands bas-reliefs sur les parties droites, et bien sûr, ça tous les chartrins la connaissent, cette statue, hein, ce grand groupe de l'Assomption de Marie qui est dans le rond-point de la cathédrale. Alors, le nouveau jubé était constitué de la façon suivante, au centre une grande grille de ferronnerie et de cuivre doré. Cette grille, on la voit, enfin très précisément actuellement on ne la voit pas puisqu'elle elle se retrouve de nouveau en zone de travaux, mais les gens pendant plusieurs années ont pu la contempler au rez-de-chaussée de la tour sud de la cathédrale, hein, face au point de vente.
Et auparavant à l'extérieur
elle a été pendant longtemps effectivement sur le parvis l'entrée de la chambre de commerce. Et puis, de part et d'autre de cette grille, deux massifs de maçonnerie, de style néoclassique, comprenant à la fois des bas-reliefs et des statues symboliques des principales vertus chrétiennes.
On va parler de la symbolique et de ce qu'on voyait après une petite pause musicale, Musica Cathedralis. Voilà. Musica Cathedralis. Gilles Fressant, je crois qu'on peut acheter le CD qui est toujours disponible. Est-ce que l'enregistrement a été fait dans la cathédrale de Chartres ?
Pour certaines parties. Oui.
Belle cathédrale qui résonne pour les chorales tellement bien que les chorales du monde entier se disputent un peu l'emplacement.
Contrairement à ce qui est parfois dit, la sonorité, l'acoustique intérieure de la cathédrale peut être absolument sublime pour voix seule. Il faut éviter d'utiliser systématiquement les micros. Elle n'a pas été construite pour une utilisation micro.
Et les chorales, les chanteurs se mettent en général à l'emplacement de l'ancien jubé dont on parlait dans la première partie. Oui. Nous avons commencé, ou plutôt vous avez eu de la gentillesse de nous parler de cette construction qui, au XVIIIe siècle, va remplacer l'ancien jubé du Moyen-Âge. Oui. Vous avez rappelé la grille en fer forgé doré, d'un côté, à nouveau depuis une restauration, exposée dans la tour sud, malheureusement inaccessible en raison des travaux.
Pour l'instant, pendant un an.
Mais il faudra revenir dans une émission nous parler de ce qu'on a trouvé entre les tours. Parce que là, peut-être vous pouvez le rappeler, vous pouvez le dire, je crois.
Oui,
que
il y a eu quelques
ça
découvertes.
Ça a été publié
récentes,
dans la presse, donc oui. Ce n'est plus un secret, c'est un secret de polychinelle maintenant.
La cathédrale, quasiment année après année, nous fait toujours d'extraordinaires surprises. C'est un monument qui toujours permet de revoir différemment les questions à la fois spirituelles et à la fois artistiques et techniques sur le Moyen-Âge. Source inépuisable d'ailleurs pour les chercheurs qui travaillent sur le sujet.
Donc on a déjà eu la surprise de voir que la partie haute du chœur était très claire, avec une peinture crème-ocre soulignée par du blanc, des clés de voûte dorées, peintes aux armoiries des donateurs sans doute, la grande chevalerie et la royauté française. Et la partie inférieure, encore très sale, va être nettoyé prochainement. Je vous l'avais annoncé. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement ? C'est donc la décoration du XVIIIe siècle.
Du XVIIIe siècle, oui. Alors, le jubé qui est installé dans les années 1760-70, finalement, va subsister très peu de temps, puisque les évolutions liturgiques au cours du XIXe siècle, XXe siècle sont rapides. Et finalement, de nouvelles instructions laissent entendre, dès le Concile Vatican I, un concile qu'on connaît finalement assez peu, que les fidèles doivent avoir vraiment directement contact avec la célébration. Et en 1866, c'est le clergé de la cathédrale qui décide de supprimer ce jubé installé à la fin du XVIIIe siècle. En fait, il aura fait moins d'un siècle. Et c'est à ce moment que les éléments sont dispersés, pour certains au musée des Beaux-Arts, pour d'autres à l'Hôtel Dieu, pour d'autres à la Chambre de Commerce, et qu'ils ont d'ailleurs été récemment rassemblés de ces différents points pour revenir, comme on le disait, à la tour sud de la cathédrale.
Alors comment se présente le jubé que les chanoines vont mettre en place dans la deuxième partie du XVIIIe siècle ? Ils ne vont pas en profiter longtemps, parce qu'ils vont être chassés de la cathédrale à la Révolution. Donc qu'est-ce qu'ils ont à la place de l'ancien jubé du Moyen-Âge, la grande grille
et des massifs de part et d'autre à bas-relief.
Quatre femmes.
Alors oui, et quatre sculptures qui représentent les principales vertus chrétiennes, évidemment, la charité, la constance, l'humilité. C'est d'ailleurs, il y a quelques encore doutes sur l'interprétation d'une ou deux, hein, puisque certains des textes, y compris des textes de l'époque, sont contradictoires les uns avec les autres. Donc, bon,
alors une femme qui écrase la couronne sous son pied, c'est l'humilité.
Oui, ça c'est relativement clair. Il y a un petit doute entre la chasteté et la constance. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails.
Très bien. Prochainement, quand les statues seront à nouveau accessibles, on va organiser un petit jeu de piste.
Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est vrai que ce jubé, finalement, n'aura pas servi longtemps. Pendant toute la deuxième partie du XIXe siècle et tout le début du XXe siècle, finalement, le centre liturgique de la cathédrale sera le chœur proprement dit, mais le chœur auquel accéderont les fidèles, dans lequel...
Donc ça daterait du milieu du XIXe siècle où on va pouvoir accéder
voilà,
accéder
tout à fait. Et ensuite, nouveau revirement avec le Concile Vatican II, hein, qui rétablit un autel face au peuple, pour nous pendant longtemps un hôtel provisoire, avant que ne soit réalisé dans les années 90 l'hôtel en argent martelé réalisé par l'orfèvre Gucci. Je précise d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez peu connu des Chartrains, sauf de certains Chartrains aînés, auxquels ce que je dis rappellera sans doute certains souvenirs. Chartres a été un des premiers lieux dans lequel on a pensé les réformes liturgiques du XXe siècle, et qu'en particulier, bien avant le Concile Vatican II, Mgr Arsquet, qui était en pointe sur ces questions-ci, a fait un certain nombre de célébrations dans l'année, et d'ailleurs pour des raisons qu'il a à chaque fois parfaitement explicité, non pas l'ensemble des offices, mais certains offices liturgiques de l'année, face au peuple, avec un hôtel situé à la croisée du transept. Mgr Arsquet a été vraiment l'une des figures de proue des questions liturgiques dans tous ses aspects, c'est-à-dire aspects visuels, aspects gestuels, dans ces années 1940-1950.
Et il a eu l'occasion de rencontrer à Chartres, au séminaire des Barbelés, Roncalli, qui va devenir initier Vatican II, et qui créait le lien et avec ce qu'il faisait dans la cathédrale, déjà en avant-garde. Mais l'actuel maître-autel, il est superbement installé sur un bel emmarchement. Je pense qu'on a bien réfléchi à la meilleure position, au meilleur emplacement de cette maître-autel.
Alors c'est une réalisation assez remarquable, même tout à fait remarquable, due au croisement de plusieurs volontés. Évidemment, Mgr Perrier, évêque, également l'architecte en chef des monuments historiques à l'époque, Guignicaud, et puis bien sûr l'artiste, qui finalement, dans leur discussion, se sont focalisés sur quelques principes de base qui se sont révélés par la suite vraiment tout à fait opérants. Ne surtout pas, sous prétexte qu'on est dans un lieu grandiose, vouloir faire un hôtel grandiose dans ses dimensions. Il faut qu'il soit particulièrement impressionnant dans la richesse des matériaux, et la richesse ne signifie pas non plus la préciosité, mais il ne faut surtout pas vouloir lui donner des dimensions trop importantes, parce que toute sa force, il la gagne par l'architecture, par le fait que l'architecture appuie l'emplacement de l'hôtel. Si vous regardez bien, en fait, l'hôtel actuel de la cathédrale, c'est la croisée du transept en miniature. Il est carré, comme la croisée du transept. Il est marqué par des lignes très fines, ascendantes, exactement comme toutes les petites colonnettes qui jaillissent des quatre angles de la croisée du transept. En fait, c'est comme si cet espace absolument phénoménal, il représente des centaines de mètres cubes d'air qui est au centre de la cathédrale, était condensé dans un volume extrêmement réduit dans un matériau d'une grande beauté pour apporter vraiment son sens à la liturgie. C'est là qu'est le centre, c'est là que tout se passe, c'est là l'endroit le plus important.
Et vers quoi convergent les regards? Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre belle émission consacrée au jubé de la cathédrale de Chartres. Nous avons écouté avec grande attention et grand plaisir Gilles Fresson, qui est professeur d'histoire et attaché de coordination au rectorat de la cathédrale de Chartres. Nous le remercions vivement.
Merci
pour le temps qu'il nous a consacré, et je dis au revoir aux auditeurs de Radio Grand Ciel. À très bientôt, un lundi à 10h30 ou un jeudi à 15h. À très bientôt, bonne et belle fin de journée.